Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour, frère Philippe.
Nous allons regarder dans le paragraphe sur la Vierge Marie, qui commence au 484, dans le catéchisme, l'article 484, dans le catéchisme de l'Église catholique. Nous avons vu conçu du Saint-Esprit en voyant que dans l'Écriture, il y a l'affirmation du Christ, deuxième personne de la Trinité, son incarnation, le Christ est né d'une femme, et l'affirmation de la virginité, la Vierge Marie, la création, quelque chose de neuf que Dieu fait en Marie. Et nous allons donc entrer dans une autre section, née de la Vierge Marie, qui nous conduira à cette question de la prédestination de Marie. Mais avant de nous y engouffrer, si je puis dire, il serait bien de citer le numéro 487 qui reprend un peu ce que nous avons essayé de dire déjà jusque-là dans d'autres entretiens. Cette très belle formule, « Ce que la foi catholique croit au sujet de Marie se fonde sur ce qu'elle croit au sujet du Christ. Mais ce qu'elle enseigne sur Marie éclaire à son tour sa foi au Christ. » D'une certaine façon, il me semble important de bien rappeler que quand on parle de la Vierge Marie, ce n'est pas la Vierge Marie pour elle-même, mais c'est son rôle dans l'œuvre de Dieu, l'œuvre de salut de Dieu. Et parler de la Vierge Marie, c'est forcément dire quelque chose de notre foi au Christ. Nous parlons du Christ à partir de la Vierge Marie, c'est bien ça.
Oui, et d'ailleurs, l'iconographie nous le rappelle d'une manière constante qu'à chaque fois, que ce soit Marie tenant l'enfant dans ses bras, ou Marie au pied de la croix, ou Marie à Cana, ou Marie à la Pentecôte, à chaque fois, il y a une présence de Marie, mais centrée sur un centre plus important, qui est toujours le Christ, voire l'Esprit-Saint, comme à la Pentecôte, mais c'est toujours le mystère de Dieu, finalement, qui converge, qui nous aide à aller vers lui, et c'est ça qui doit toujours être repris dans les catéchèses mariales. La mariologie n'est pas une science indépendante, elle ne peut se comprendre que dans l'axe de la christologie, c'est-à-dire du mystère du Christ, et par lui du mystère trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Si je n'ai pas cette notion-là, alors je risque de croire que Marie sera un peu superfétatoire et tomber dans des courants d'hérésie qui rejettent l'histoire sainte et la place éminente de la Vierge Marie dans le dessein d'amour bienveillant. Et c'est évident qu'il n'y a pas d'opposition entre les deux, puisque, comme dit très bien le catéchisme, il y a comme une sorte d'éclairage réciproque. Ce que nous croyons sur Marie se fonde sur ce que nous croyons sur le Christ, et tout simplement parce que Jésus est né de la Vierge Marie. Et en même temps, ce que nous enseignons sur la Vierge Marie éclaire à son tour notre foi au Christ. C'est très important aussi cette réciprocité, parce que tout simplement, Marie a été l'éducatrice du petit enfant Jésus à Nazareth. Elle l'a enfanté à Bethléem, elle l'a nourri, elle a été là dans les premiers moments de sa vie publique. Et donc, et c'est tout à fait normal que tout ce que l'Écriture et tout ce que la tradition nous dit de Marie nous aide à mieux situer le Christ dans son mystère et dans sa vie cachée, dans sa vie publique, pour mieux le recevoir pleinement, dans le fond. Et de ce point de vue-là, tout ce que nous disons comme qualité de la Vierge Marie ne nous éloigne pas d'elle, mais nous permet de comprendre qu'elle veut venir au-devant de nous pour nous aider dans la vie intérieure qui est la nôtre à mieux recevoir son Fils, comme elle a aidé l'humanité tout entière à recevoir son Fils par la conception de celui-ci dans son sein et par la naissance de Jésus à Bethléem. Et donc, Marie a un rôle aussi dans nos vies, c'est-à-dire elle va nous aider à refaire ce parcours qu'elle-même a réalisé pour notre bien, pour la naissance de Dieu dans nos âmes, la naissance du Verbe de Dieu dans nos âmes, de telle sorte, comme dit la bienheureuse Élisabeth de la Trinité, Sainte Élisabeth de la Trinité, une sorte de surcroît à l'incarnation, de lui permettre de continuer son expansion à travers le mystère donné d'une manière définitive par Dieu, en, bien sûr sous un mode très différent, puisque le mode est seulement celui de l'adoption, comme dit Galates 4:4, nous ne sommes que des fils adoptés, mais Marie joue un rôle dans cette adoption. Elle n'est pas neutre, elle est là comme elle a été la gardienne des mystères du Christ dans son origine.
Alors, allons juste après au numéro 488 sur cette prédestination de Marie que j'annonçais au départ. Prédestination de Marie, Dieu a envoyé son Fils, donc c'est dans la lettre aux Galates que tu viens de citer, mais pour lui façonner un corps, il a voulu la libre coopération d'une créature. Pour cela, de toute éternité, Dieu a choisi pour être la mère de son fils, une fille d'Israël, une jeune juive de Nazareth en Galilée, une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. Il y a derrière l'idée d'une préparation, donc d'un choix de Dieu, Dieu a un plan de salut, et la Vierge Marie y trouve une place.
Exactement, et ce mot prédestination qui pourrait peut-être choquer quelques oreilles, le Concile Vatican II n'a pas hésité à l'utiliser à propos de la Vierge Marie. C'est important de le dire avec Lumen Gentium numéro 56, qui est au chapitre 8 de cette grande constitution sur l'Église. La constitution sur l'Église nous donne vraiment les éléments pour bien recentrer les choses autour du corps qu'est l'Église par rapport à Jésus-Christ. Et voilà ce que dit le catéchisme. Le Père des Miséricordes a voulu que l'incarnation fût précédée par une acceptation de la part de cette mère prédestinée. Donc vous voyez, le mot prédestiné est vraiment dans le Concile Vatican II, en sorte que une femme ayant contribué à l'œuvre de mort, de même une femme contribua aussi à la vie. C'est un rappel toujours du protévangile que nous soulignions précédemment, que Ève est tombée, a été la première à tomber, entraînant Adam, son mari. Eh bien, il fallait d'une certaine manière que les choses s'inversent, c'est-à-dire à partir de Marie, eh bien, qui allait contribuer à la vie, du coup, la vie plénière du nouvel Adam allait nous être donnée. Il y a comme une sorte de récapitulation à partir de zéro, où Dieu avait comme un plan B, après la chute d'Adam et Ève, un plan B pour le salut de l'humanité. Et cette prédestination doit nous faire comprendre qu'il y a quelque chose dans l'Écriture qui en parle. Parce que si le Concile Vatican II parle de prédestination, eh bien, ça n'est pas en vain. Vous avez par exemple en Éphésiens chapitre 4, il nous est dit, après une bénédiction tournée vers Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ainsi qu'il nous a élus en lui dès avant la fondation du monde pour être saints et immaculés en sa présence dans l'amour, déterminant d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Tel fut le bon plaisir de sa volonté. Et vous voyez, il y a là tous les éléments qui font ce que nous appelons la prédestination. C'est-à-dire, il nous a élus avant la fondation du monde. C'est cela la définition de la prédestination. Déterminant d'avance, c'est une autre manière de le dire, ces expressions convergent donc vers cette idée de prédestination, afin de réaliser quand les temps seraient accomplis, ramener toutes choses sous un seul chef, le Christ dit au verset 10, l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1. C'est ce dessein bienveillant qu'il avait formé en lui par avance, est-il dit au verset 9, c'est le mystère de sa volonté. Eh bien, quand nous rentrons dans ce mystère, à ce moment-là, tout s'éclaire. Et la grosse difficulté, je pense, pour des esprits trop rationalistes, c'est de rentrer dans ce mystère du dessein d'amour bienveillant de Dieu. Une fois qu'on l'a accepté, je dirais, c'est beaucoup plus facile de comprendre ces expressions de l'Écriture et comment l'Église les transmet de génération en génération pour nous aider à l'assimiler, cette Écriture qui est vivante et qui nous donne d'en vivre. Et nous pouvons nous situer à l'intérieur en voyant que ce plan préétabli, dit encore l'Épître aux Éphésiens au verset 11, de celui qui mène toute chose au gré de sa volonté. C'est la soumission, dans le fond, à la volonté divine par derrière, hein, ce plan. Mais une soumission, vous voyez, qui n'est pas une soumission aveugle, qui est une soumission dans la liberté de ses enfants. C'est ça qui est, pour nous, le grand mystère, c'est qu'à la fois Marie rentre dans cette prédestination et en même temps, elle était totalement libre, comme disait Saint Bernard.
En tout cas, donc, sur ce mot de prédestination qui, effectivement, tu le disais au tout début, qui peut faire peur, être mal compris, c'est pas que certains seraient choisis, certains seraient sauvés, d'autres ne le seraient pas, c'est bien dans le plan de Dieu, comme tu rappelais avec Éphésiens, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, il a un dessein pour la créature qu'il accomplit.
Exactement. Et nous pouvons nous réjouir qu'il y a eu dans cette prédestination une préparation, c'est ce qu'explique le numéro 489, en montrant les étapes à travers des figures déjà de l'Ancien Testament qui nous parlent déjà de Marie. Sarah, c'est l'épouse d'Abraham, et vous avez Anne, la mère de Samuel, Déborah, Ruth, Judith, Esther, toutes ces figures féminines de la première alliance sont tout à fait adaptées à comprendre que Marie les a toutes réalisées dans cet accomplissement.
Merci frère Édouard.